Bonjour Amélie de Montchalin.
Bonjour.
Vous n'étiez pas au Havre, pourquoi?
Moi, je suis, vous savez, très attachée à la clarté en politique. Et je crois que les Français, d'ailleurs, ils attendent de la clarté parce qu'on a un champ politique aujourd'hui entre la droite et la gauche très incohérente, avec Éric Zemmour qui dit des horreurs. La clarté, elle est celle que le président de la République défend depuis 2017.
Donc au Havre, c'était l'obscurité.
La clarté, c'est le dépassement politique, c'est une action résolue pour les Français qui dépasse les clivages de droite-gauche. Et moi, je vais vous le dire très personnellement, les chapelles, les partis qui se multiplient, ça ne contribue pas à la clarté. Ce qui est clair aujourd'hui, ce qu'on doit montrer aux Français, et je crois que c'est ce qu'ils attendent, c'est est-ce qu'on soutient ou pas clairement le président de la République.
Et vous estimez que ce n'est pas assez clair?
Et ce que j'ai entendu et ce que je crois qu'on doit retenir d'hier, c'est qu'il y a 2000 personnes, hier, qui se sont réunies et qui ont décidé de vouloir soutenir le président de la République. Ça, c'est clair et c'est une bonne nouvelle.
Édouard Philippe a dit et répété, je veux la réélection d'Emmanuel Macron, bien, mais il a confié au journal du dimanche que vous avez lu en une, cette réélection n'est pas acquise.
La réélection, c'est quoi? C'est clairement parler aux Français d'abord du président de la République et de son action. C'est clairement ensuite réunir, élargir, poursuivre ce que
Mais
le
vous
président de la
confirmez que la
République.
réélection n'est pas acquise. Bien sûr,
Mais
c'est ouvert, une réélection ou une élection, surtout quand elle a un président
l'élection d'un
sortant.
président sortant, il faut bien qu'on soit dans la rupture. On n'est pas des conservateurs. Il faut qu'on incarne encore l'innovation pour réparer, pour préparer notre vie. Mais ce que j'ai à vous dire, ce qui compte pour moi, de manière très claire, ce n'est pas les chapelles, ce n'est pas les partis. C'est est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'incarner clairement un soutien sans contrepartie à l'action du président de la République?
Donc là, il y a des risques de demande de contrepartie. Et puis, mais on va voir, il y a une nouvelle offre politique, dit-il, qui est née au Havre.
Moi, je vous le dis, l'offre politique nouvelle, c'est celle du président de la République, qui en
Donc d'accord, on ne va pas le
2017.
répéter,
Oui, mais je vais
le
le
président de la
redire.
République.
Mais qu'est-ce qu'il
Mais.
a fait en 2017, le président? Il a dit, le clivage droite-gauche, il est incohérent, il ne permet pas au pays d'avancer. Il nous maintient dans des discussions qui n'avancent pas. Notre pays a besoin d'avancer. Avançons en étant.
C'était il y a 5 ans.
Oui, mais
Nous sommes en 2022, il y a 5 ans de pouvoir, des tas de crises plus ou moins bien maîtrisées. Mais pourquoi les ministres eux-mêmes ont séché le rendez-vous? Pourquoi le boycott?
Il n'y a aucun boycott. Nous, on est clair. On soutient le président. Ce que j'ai vu hier, je le redis. C'est trois choses. C'est 2000 personnes qui se
D'accord,
réunissent pour voter pour
je
Emmanuel
suis
Macron.
pas sourd, j'ai déjà
Ils
entendu
étaient, oui, mais ce
2000
sont
personnes.
des personnes qui étaient des opposants de droite jusqu'à maintenant. Ce sont des personnes qui, il y a quelques semaines, quelques mois, n'auraient pas dit qu'ils soutenaient le président de la République et sa
D'accord,
réélection.
mais ils ont applaudi quand ils ont entendu qu'il y a que pour une éventuelle victoire, Édouard Philippe sera indispensable.
Ce que j'ai entendu de clair aussi, deuxième chose, c'est qu'il souhaite, il affirme vouloir inscrire cette initiative dans la maison commune de la majorité. C'est naturel, il a été le premier ministre de cette majorité pendant 3 ans. Mais c'est aussi une bonne nouvelle. Ce que j'ai aussi entendu, c'est que ces deux éléments, 2000 personnes anciennement des opposants de droite, qui se réunissent, l'affirmation de vouloir rejoindre la maison commune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une mauvaise nouvelle pour
D'accord.
ceux qui, à droite, sont dans l'incohérence, pour Mme Pécresse, pour M. Bertrand, pour M. Barnier, qui ne sont pas clairs.
Non, mais attendez,
Et donc,
on va
aujourd'hui,
essayer alors d'être
ce n'est
clair
pas une question de parti
à
ou de
partir des
chapelle,
propos
c'est une question de
d'Édouard Philippe.
clarté pour 2022.
Il vous fait la leçon. Il dit, il faut préparer 2050. Il faut voir loin. Est-ce que ça veut dire que les macronistes, vous avez la vue courte?
Qu'on soit très clair.
Vous dites 2030, il dit 2050. On aurait
Un,
pu dire 2080 aussi.
aujourd'hui, vous voyez, on est en octobre 2021. On n'est déjà pas ni en 2022 et sûrement pas ni en 2027, ni plus loin. L'action que nous menons, c'est une action chaque jour. Le président de la République, vous voyez, mardi, va annoncer un plan d'investissement pour que nous préparions la prospérité, la souveraineté, bref, la justice territoriale de la France qui
Pour
vient.
2030.
Mais nous
Lui, il vous dit
commençons.
2050.
Mais nous
Faut voir
commençons.
loin.
Oui, mais nous commençons aujourd'hui. L'action, elle se fait chaque jour, quotidiennement, et évidemment par les choix que nous prenons successivement. Nous construisons demain. Évidemment qu'on doit
Très
préparer le
bien.
pays. Mais je pense qu'il serait obscène aujourd'hui, dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, de faire comme si nous pouvions parler de très très loin, sans nous préoccuper aujourd'hui de ce que les
Donc,
Français nous demandent de faire là où ils sont.
obscurité, obscénité. Mais je vous dis, ben
Moi, je
non, mais
crois que
et si on doit,
la
écoutez,
politique, vous savez,
je
c'est
vais
deux
pas
choses.
m'attarder, mais je veux
Jean-Pierre
comprendre
Carrache.
ce qui est en train de naître. L'ex-premier ministre Emmanuel Macron, il vous met en garde et il alerte. Il dit, il faut de l'ordre dans les déficits et les comptes publics. Vous avez trop dépensé, peut-être avec le quoi qu'il en coûte, pour répondre à la pandémie qui a provoqué des dépenses énormes, d'ailleurs, qui ont calmé un pays qui est angoissé. Mais il ne fallait pas tout le temps arroser. Il dit de l'ordre aussi dans la rue, parce qu'il y a des violences qu'on voit chaque jour. Il y a de l'insécurité.
Je reprends.
Aujourd'hui, c'est lui qui le dit, c'est pas moi.
Un, clarté. On soutient l'action du président ou on ne la soutient pas. Si on la soutient, on la soutient résolument. Deuxième chose...
Vous donnez l'impression d'être embarrassé.
Pas du tout. Ce qui serait embarrassant, c'est qu'un Premier ministre qui a servi pendant 3 ans le président de la République, qui a servi l'action du président de la République, dise autre chose que « je souhaite sa réélection ». Ce qui serait embarrassant, c'est que nous n'arrivions pas, alors même que la droite et la gauche se fourvoient tous les matins dans des discours incohérents. Je pense à Mme Pécresse, par exemple, qui est partie des Républicains parce qu'elle trouvait que Laurent Wauquiez copiait les thèses du FN sur l'immigration et qui aujourd'hui court après Zemmour. Elle est là, l'incohérence. Elle est aussi là, l'obscénité. Nous sommes...
Et Michel Barnier.
Michel Barnier. Mais revenons-y. Un pro-européen qui, pendant des années, a fait de son combat l'unité européenne, qui a trouvé un accord sur le Brexit alors que c'était très compliqué, et qui, par électoralisme, à la première, vous voyez... confrontation venue,
il s'est défendu. Vous n'allez pas l'accuser d'aller vers un Frexit comme les Polonais.
Il se met dans les pas de pays comme la Pologne ou la Hongrie, qui disent très clairement que le droit européen, eh bien, au fond, on le met de côté. Je pense que l'électoralisme de cette droite qui a perdu sa boussole, là, il y a de l'obscénité. Là, il y a de l'obscurité. Et il y a surtout un électoralisme qui fait monter M. Zemmour et ses horreurs. Notre clarté à nous,
tout à l'heure, on verra
les
horreurs.
Ce n'est pas les partis, ce n'est pas les chapelles. C'est de dire clairement, est-ce qu'on soutient ou pas le président de la République?
Donc,
est-ce
bien.
Qu'on est capable d'élargir...
Au Havre est né le début d'une chapelle. Quand il a lancé son parti, est-ce que le président de la République l'a encouragé à créer le parti?
Je ne connais pas les échanges que le président de la République a avec les uns et les autres. En revanche, je connais ce qu'il nous demande à nous, ministres, de faire.
Ouais.
Il nous le demande toutes les semaines, dans chacune de nos actions. Être ambitieux pour le pays, être clair et dépasser les clivages. Continuer à élargir, continuer à dépasser.
Est-ce qu'il y avait urgence à créer ce parti?
Alors, il y avait en tout cas besoin d'une clarification, que je crois qu'Édouard Philippe apporte. Il s'inscrit dans la réélection, 2000 personnes venant de la droite se réunissent, et il rejoint, et il affirme vouloir rejoindre la maison commune.
Horizon, c'est un beau nom prometteur. Horizon pour qui d'ailleurs?
Là aussi, je vous l'ai dit, je vais le redire. Pour moi.
Non, 2000 personnes,
non, c'est
etc. La clarté,
je vais vous le redire. Ce qui pour moi, ce qui compte, c'est pas ce qu'on est. Ce n'est pas le nom qu'on porte, c'est ce qu'on fait. Et c'est comme ça que depuis 4 ans, le président demande que nous agissions, que nous soyons concentrés sur l'action que nous menons, sur la vie quotidienne des Français, sur la réalité du pays. Et donc, les noms partis, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon sujet.
D'accord, mais vous avez prévenu, au moment où il a quitté Matignon, j'étais loyal, je suis libre. Il est en train de vous le démontrer. Mais Horizon va aussi, il le laisse entendre,
il est engagé auprès
donner
du
des
président.
Investitures pour avoir des députés philippistes qui comptent. Après, si jamais le président est réélu.
Qu'on soit clair, là, on a un combat. L'élection présidentielle, tous les scénarios fiction sur ce qui se passera après, sur comment on le fera, sur les contreparties, ce n'est pas le débat. Là aussi, les Français...
Il le lance, le débat.
Oui, mais les Français, ils attendent quoi?
Il le lance, le débat.
Ils attendent
la réforme de la fonction publique, vous êtes responsable, vous, et de la transformation. Il dit « Notre État est trop lourd pour être agile. Il doit être plus efficace dans un périmètre... » resserrer aux fonctions régaliennes, la justice, la police, etc. etc.
Là, Édouard Philippe, il a été 3 ans notre Premier ministre. Il a mené des actions qui n'étaient d'ailleurs pas celles de resserrer le service public sur les seules fonctions régaliennes. On peut tous faire des propositions. Maintenant, il ne faut pas oublier la réalité du pays et aussi ce que la crise que nous venons de vivre nous a appris. Avec Jean Castex, l'action que je mène, c'est une chose très claire. Le service public, les Français, ils ne sont pas en train de nous demander qu'on le réduise. Ils nous demandent qu'on le rende plus efficace. Ce n'est pas les mêmes actions, ce n'est pas les mêmes besoins. Le service public de la santé, ce n'est pas un service public régalien. C'est un service public aujourd'hui que tous les Français plébiscitent et nous demandent de soutenir. L'action que je mène avec Jean Castex, c'est une action de dire on veut plus d'efficacité.
C'est plus clair, c'est pas obscène.
On a besoin d'avoir des agents publics sur le terrain proche des Français.
Une question qui dépend de votre ministère.
Beaucoup moins de complexité.
Une question qui dépend de votre ministère. Le 1er janvier prochain, c'est-à-dire dans 3 mois, votre réforme de la haute fonction publique devrait s'appliquer. Mais elle a été imaginée en 2019. Pourquoi pas avant? Elle va être appliquée en 2022. Pourquoi pas avant? Qui l'a bloqué? Emmanuel Macron l'a bloqué? L'a retardé? Pourquoi?
Elle a été imaginée en 2016-2017 par le président de la République, qui, dès sa campagne, a dit « Je serai le président qui, enfin, va faire cette réforme dont on parle depuis 30 ans, parce qu'elle est absolument nécessaire si on veut que la France... »
Il a bloqué
il y a eu
ou retardé.
Non, mais il y a eu des scepticismes, il y a eu des lois votées, il y a eu du travail qui a été fait. Aujourd'hui, on met en œuvre une réforme qui est majeure.
Qui l'a bloquée?
Je ne sais pas vous dire, je n'étais pas ministre. Ce que j'ai à vous dire, c'est que moi, je suis
donc
ministre
elle a été bloquée.
Depuis le mois de juillet 2020. Cette réforme, nous la faisons. Nous la faisons pour que les Français aient une action publique efficace, proche d'eux. Et ça fait 30 ans qu'on en parle.
Amélie,
et parce qu'on va former différemment et on va surtout recruter différemment ceux et celles qui servent les Français.
Vous avez pour les mois qui viennent deux batailles à mener, deux fronts qui sont déterminés. L'un, vous l'avez cité tout à l'heure, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier. Et puis il y a d'abord Éric Zemmour. Il est en train d'absorber les Marie Le Penistes. Et en tout cas, il a l'air de vous obséder, puisque dès la première phrase, vous avez parlé de lui. Alors, est-ce qu'il devient une alternative?
Moi, je ne suis pas obsédée par M. Zemmour. Mais je suis ici sur une chaîne où M. Zemmour travaillait.
Oui. Regardez BFM et regardez tous les médias aujourd'hui.
Et je dois vous dire que ce qu'il a dit il y a quelques jours sur Vichy, sur M. Mengele, à mes yeux, le disqualifie à jamais de devenir un responsable politique, même d'être candidat à une élection. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui dans notre pays, faire ce que peut-être le FN n'a jamais fait. C'est-à-dire introduire l'idée qu'il y aurait une comparaison ou même un débat entre un ministre, quel qu'il soit, de l'éducation nationale ou de quoi que ce soit d'autre, et un responsable du plus grand crime contre l'humanité qui était mené dans notre siècle, qui est la mort de 6 millions de personnes, de tant et de tant de juifs et de juifs français, et de considérer qu'il y a là même un enjeu de débat politique.
Le les Français, Mengele, ils emportent... était le médecin nazi d'Hitler dans les camps de la mort.
Les Français, ils portent cette blessure indélébile d'avoir été au cœur. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, là où même le FN des années 80, qui était pourtant rempli de collabos négationnistes, n'a jamais osé aller sur ces terrains-là, comment allons-nous laisser un tel personnage, oui, imaginez être alors, un jour un responsable politique.
D'accord, mais expliquez-moi pourquoi il séduit, pourquoi il est en train de monter, pourquoi il progresse.
Moi, je n'ai pas expliqué ça. J'ai à voir qu'il y a.
Vous dites qu'il dit des horreurs et il progresse. Et partout, il dénonce le déclin de la France, de l'Occident, la civilisation chrétienne. Et apparemment, ça fonctionne.
Un à droite. Aujourd'hui, ceux et celles qui justement voulaient faire rempart à des idées d'extrême droite sont en train de courir après M. Zemmour. Par électoralisme, j'en ai parlé. Il y a aussi un grand vide. On ne comprend pas les propositions. J'étais au Sénat, vous voyez, sur la réforme de la haute fonction publique. Des hommes et des femmes qui ont été dans les gouvernements depuis 30 ans, qui ont voulu faire cette réforme, ou en tout cas qui l'ont promise aux Français, n'ont aucune vision de l'État, n'ont aucun amendement, n'ont aucune proposition. Se mettre là dans une pièce, disent on est contre le gouvernement, mais on n'a rien à dire sur le fond. C'est ça qui contribue à ce grand vide et à cette grande confusion et qui laisse de l'espace à des choses qui, je le redis, sont ignobles et ne correspondent pas à ce qui devrait même être dans le débat politique.
Faites attention, parce que plus on le cogne, plus vous le renforcez.
Monsieur Elkabbach, on ne peut pas laisser passer dans notre pays l'idée qu'il puisse y avoir le début d'un quelconque débat ou de comparaison entre un ministre de la République et l'un des instigateurs d'un des plus grands crimes contre l'humanité de notre histoire.
La réforme que vous portez, importante, va être en place à partir du 1er janvier. En février, vous allez organiser une conférence sociale sur les salaires. C'est-à-dire que vous reconnaissez qu'il faut que ça bouge et que les salaires, il faut qu'ils soient plus adaptés, peut-être même qu'il y ait moins de fonctionnaires.
Non, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, le système, il est à bout de souffle. Il n'est pas attractif. Les fonctionnaires eux-mêmes n'y comprennent plus rien. Et on a aujourd'hui des décisions fortes à prendre. J'ai pris des décisions fortes. Je suis la ministre qui a porté la revalorisation de 1,2 million de fonctionnaires qui étaient les moins bien rémunérés.
Eh bien, continuez.
Ce n'est jamais arrivé. Je suis la ministre qui va payer la mutuelle santé des fonctionnaires. Parce que ce n'était pas fait, c'était une injustice. Il y a des choses qu'il faut regarder de près. Il faut qu'on ait un diagnostic commun avec notamment les organisations syndicales sur ce que nous devons
donc
changer.
Donc on en reparlera.
Et
on en est au diagnostic. Merci d'être venu, Émilie de Montchalin, surtout un moment difficile après Le Havre.
Merci. C'est un moment de clarté. Et je pense qu'il faut qu'on soit avec les Français dans ce moment-là.
Pour la clarté contre l'obscénité. Merci.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis dans la matinale week-end CNews Europe 1. À la semaine prochaine. D'ici là, profitez bien de votre dimanche.